France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza.
Je suis Cecilia Bartoli. Je suis née à Rome le 4 juin 1966. Je suis musicien, cantatrice, passionnée par la musique.
Cecilia Bartoli, parmi les derniers projets, alors il n'est peut-être pas si important que ça, mais il est quand même marrant, enfin significatif historiquement. L'une des dernières choses que vous ayez faites, c'était l'an passé, c'est d'enregistrer dans la chapelle Sixtine avec le chœur de la Sixtine. C'est important parce que vous avez bouleversé l'histoire de la chrétienté, là, tout d'un coup.
Et surtout d'avoir une femme dans la chapelle la Sixtine, alors qu'il n'y a que des hommes, que des enfants, mais pas de femmes, c'est vrai. Même ils ont pensé que j'étais en castrat, parce que je demande de musique de castrat. Non, mais c'était... Quel moment, comme oui. Romaine en plus.
Oui.
Alors, je me souviens, la première fois que je suis entrée dans la chapelle à Sistine, j'étais toute jeune, j'étais à l'école, et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes, il faisait chaud, enfin c'est... Et là, de rentrer dans la chapelle à Sistine, d'écouter la musique chantée par le chœur de la chapelle à Sistine, c'était un moment de grâce pure, oui.
Et se mêler à ça en plus.
Et se mêler à ça, c'est... Je ne pouvais pas m'imaginer de... Et surtout, l'acoustique de la Cappella Sistina, c'est incroyable aussi. Enfin, la beauté de la Cappella Sistina, enfin, c'est clair pour tout le monde de rentrer, c'est un lieu mythique. Mais aussi acoustiquement, je n'avais jamais entendu de la musique dans la Cappella Sistina. Pour moi, c'était une révélation.
Vous avez fait rentrer en plus la féminité dans la Chapelle Sixtine. 2017, hein.
Oui.
Quel rapport vous avez avec votre voix, Cecilia Bartoli? Je vous pose la question parce que j'ai lu un article il y a quelques années, en fait, où vous racontiez à un journaliste que vous aviez vu vos cordes vocales de près grâce à une caméra chez un otorhino ou je ne sais quel médecin.
Oui, j'étais à Houston, je me souviens.
Et la manière dont vous le racontiez, on avait l'impression que vous regardiez un objet ou un animal qui n'était pas tout à fait vous.
Ben oui, mais c'est toujours comme ça quand on sait pas l'intérieur de notre corps. Ça fait presque peur. Et quand on voit les cordes vocales, on s'est dit, tiens, c'est que ça, tout simple que ça. Enfin, de petites
muscles,
oui, cartilagineux, enfin qui bougent. Et quand on siffle, ils font un drôle de mouvement. Quand on chante, ils vibrent. Quand on parle, commence à devenir rouge petit à petit. Mais quel mystère. C'est quoi la voix? Alors, vient d'où? Parce que la voix qui arrive à faire pleurer les gens, c'est vraiment... C'est l'instrument, c'est tout. La voix, c'est l'instrument le plus proche de l'âme. Mais c'est vrai. Parce que si on le voit, on se dit, tiens, c'est rien, ça. Mais en même temps, quelle puissance peut avoir une voix, non?
Alors ça vient d'où, en fait? Ça vient pas de ces petits muscles-là.
Ça vient d'où, la voix? La voix vient de... de tout notre corps, de notre âme, de notre fragilité. C'est pour ça, c'est tellement fragile si la voix, non, c'est à l'intérieur de notre corps. On le voit, enfin, moi je le vois, mais on le voit pas quand on n'arrive pas vraiment à le soigner comme il faut. C'est pas comme en violence, si il y a une corde qui se casse, allez hop, on peut la changer. Non, la voix, si on est malade, on a un rhume, il faut attendre. C'est, voilà, de vivre avec un instrument, l'instrument intouchable, mystérieux, c'est pas évident.
Toucher du bois de Chia Bartoli, vous n'avez jamais eu de problème avec votre voix, vous ?
Non.
Non, jamais ?
Non, j'ai jamais eu de... Enfin, j'étais malade, je suis tombée malade avec un rhume, comme ça arrive.
Mais pas de maladie de chanteuse
non.
ou de chanteur de...
Non, non. Et ça revient à ce que je disais avant par rapport à la technique vocale. C'est impératif d'avoir une technique solide. Moi, j'ai dit toujours, la voix, c'est comme une maison. Il faut penser vraiment, savoir, quand on est en train de construire une maison, on a un terrain, et là... Pierre par pierre, il faut savoir exactement où mettre le pierre. Après, quand la maison est faite, à l'intérieur, on peut toujours choisir de meubles ou pas de meubles, minimaliste ou pas minimaliste. Mais le fondation doit être là. Et là, je pense que si on a ça, il faut choisir après le répertoire. Qu'est-ce qu'il faut chanter ? Ça, c'est clair, parce que c'est très important d'avoir une guide qui te dit le répertoire, qu'est-ce que, et de ne pas faire un pas trop grand pas plus long de la jambe, on dit en italien, un pas trop long.
Pas mettre la charrue avant les bœufs.
Bah, peut-être, ça va être ça. Alors, ça
en français,
ça,
on dirait comme ça.
Sinon, c'est quelque chose qu'on le paye. On va le payer, pas tout de suite. Quand on est toute jeune, parce qu'on a la force, on a l'énergie, on peut y aller. Mais petit à petit, si la technique n'est pas tout à fait solide, les pierres de la maison commencent à bouger. Et là, il faut faire attention.
Vous savez, on en voit, on entend des chanteurs aussi qui se brûlent de cette manière-là, parce que justement, ils sont allés peut-être un peu trop loin, trop vite.
Qui se brûlent trop loin, trop vite. Oui, les chanteurs, quand ils sont jeunes, ils ont tout de suite envie... Allez, d'y aller, de... Et là, c'est là qu'il faut avoir la patience comme Roger Federer. Il est toujours le number one, mais il travaille toujours. Mais il a eu la discipline, le talent, mais la discipline, c'est ça.
Beaucoup de talent quand même aussi, beaucoup
de facilité. Ah ben oui, mais c'est clair. Non mais le talent, c'est indispensable. Mais d'y aller doucement. Sulla senna sovrina sorrido, animando la battaglia vendetta, di che cuore che avanti valore. Manderò, volerò, volerò, sulla senna potevo sorrido, volerò, 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 vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, volerò, animando battaglia, vendetta, di che cuore che avanti valore. Andando battaglia, vendetta, di che cuore che avanti valore. E più vuole che mi serpi nel seno, scaglia pure la fatale saetta, scaglia pure la fatale saetta, a finire il mio cervo d'or, a finire il mio cervo d'or. Andiamo, 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 sono sempre tutto tempo sorrido, volevo, volevo, volevo.
perché fatti valor.
Pierre Boulez, vous avez chanté une fois sous la direction de Pierre Boulez, on est en France ici, on en profite, hein. C'était les Nuits d'été d'Hector Berlioz.
Oui.
Ça s'est passé comment avec lui?
Ah, ça c'était un chef, un musicien extraordinaire, Pierre Boulez. Très sensible, très... Enfin, j'ai pas eu l'occasion, vraiment, c'était que ça
juste
finalement,
une fois.
Juste une fois. Mais une personne très discrète. Aussi, sa façon de travailler était vraiment dans la simplicité absolue. Vraiment, je suis restée très impressionnée. Aussi, il avait une oreille avec l'orchestre quand on a travaillé. Il pouvait entendre presque chaque instrument. Je dis, mais c'est incroyable. C'est l'oreille absolue, vraiment, dans le vrai sens.
Donc on est du côté des chefs d'orchestre. Quels sont celui ou celui peut-être qui vous a le plus marqué parmi tous ceux que vous avez pratiqués de chef?
C'est difficile à vous répondre.
Alors, plusieurs?
Il y en a plusieurs. Là, on a quand même mentionné les grands chefs, même si j'ai jamais... Enfin, j'ai travaillé avec Arayan, mais j'ai jamais fait sur scène un concert. Mais on a travaillé quand même 3 mois ensemble pour la messe en si mineur. Et sa personnalité, son charisme, sa façon aussi de penser toujours à la phrase et à la continuité. Il m'a toujours dit, il faut penser à la voix, c'est comme l'arche. En violoncelle, voilà, de penser à la direction d'une phrase. Ça, je me souviens très bien. Et ça, c'est tellement important d'avoir cette vision. Lui, Barenboim, incroyable. Avec lui, j'ai eu mes moments musicalement, des moments de grâce, de pur. Ou pianiste aussi. Je travaillais. Moi, je dis toujours, j'ai appris beaucoup par les instrumentalistes à chanter, plus que par les chanteurs, bizarrement. Alors quand j'ai dit, oui, j'ai appris beaucoup, j'ai jamais rencontré Serkin, par exemple, le pianiste, mais j'ai appris beaucoup à chanter, parce que sa façon de jouer le piano, c'est du chant pur, ou Andra Schiff. Là, j'ai eu l'occasion de travailler avec Martha Argerich. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Là, c'est le chant le plus sublime.
Vous dites ça, mais vous êtes comme la Bartoli, quoi. Quand vous arrivez devant Argerich, vous avez quelques atouts avancés quand même, non? Parce que vous en parlez comme si vous étiez toute émerveillée, le fait de voir Martha Argerich, vous êtes quand même...
Émerveillée parce que le fait qu'elle, rarement, elle m'a dit qu'elle a fait seulement une fois ou deux fois, elle a travaillé avec une chanteuse.
Oui.
Alors là, c'était l'année passée que... On a fait ensemble de la musique de Mozart, des lieds de Schubert, de Rossini, et de travailler ensemble. Cette femme, cette musicienne, c'est incroyable. Vraiment, c'est ce que elle arrive, des couleurs qu'elle arrive à faire avec le piano. C'est une légende vivante, ça c'est sûr.
Les grands entretiens de Cécilia Bartoli, France Musique.
Il y a un nom de chanteuse que vous avez prononcé déjà au moins une fois. Grande admiration, ça m'a étonné quand je l'ai vu, parce qu'a priori, c'est ni votre répertoire, ni votre voix, ni rien. Christelle Ludwig. Alors, c'était peut-être il y a des années que vous la nommiez. Est-ce que ça reste quelqu'un d'important pour vous?
Christelle Ludwig. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de l'entendre quand j'étais jeune, très jeune, à l'Opéra de Rome. Mais j'ai entendu... un récital, c'était à la fin, presque à la fin de sa carrière à Salzbourg, et elle a fait un récital, mais la voix était d'une santé vocale, une reine sur scène, vraiment sa façon de jouer avec les paroles, de porter chaque mot, incroyable, vraiment.
Yeah.
différent par les autres. Enfin, vous avez mentionné Crystal Ludwig, mais j'ai quand même eu la chance de voir aussi, enfin, Leyla Kubler-Lee. Enfin, à l'époque, c'était mais des grands cantatrices. J'ai pas eu la chance de voir Callas, mais quand même, enfin, sur scène, c'est sûr. Mais le DVD, oui, ça, Domingo, enfin, les grands. Mais surtout les comédiens italiens, hein, quand on pense à Anna Magnani, on apprend aussi de films. Oui. Là, si. Et les mettre en scène, c'est vrai.
Quand ils
des
sont
mauvais
bons.
Aussi. Hein.
Des mauvais aussi, avant. Il n'y en a presque pas des mauvais.
Ah si, il y en a. Comment? Surtout ceux qui ne comprennent pas la musique. Je dis, mais si vous ne comprenez pas la musique, pourquoi vous faites de la mise en scène d'opéra?
Ça qui peuvent pas lire la musique.
Parce que la musique, c'est la source pour être inspiré, non? Alors, quand on a en livret, mais aussi on a la musique, on a, ah bah, tiens, et le bois qui arrive, le violon, en certains moments, la flûte, ça veut dire quelque chose. Et si on ne peut pas lire la musique, on n'écoute pas,
Alors, il y a quelques-uns qui savent quand même.
Et alors, avec l'expérience, il y en a. Non, ça c'est sûr, non. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, l'expérience fait que. Maintenant, quand on me demande pour un rôle, il y a metteur en scène, alors là, je prends mes précautions. J'essaie de voir les mises en scène.
Oui.
Voilà.
Quand un peu prudent.
Faites prudent.
Bartoli, vous êtes aujourd'hui dans le monde du chant, l'une des évidemment très très grandes chanteuses tout confondu. Vous êtes deux ou trois aujourd'hui à ce niveau de notoriété certainement, deux, Jonas Kaufmann et vous. Vous pourriez faire comme avait fait Pavarotti à l'époque, hein, dire qu'on va remplir des stades par exemple, ou alors faire, je sais pas, 80, 100 dates par an, ce qui serait après tout possible, envisageable, si la voix continue à être saine. Or, vous limitez beaucoup, une quarantaine de dates par an, si je dis pas de bêtises, 50 dates au maximum, deux productions d'opéra maximum, parfois certaines années, une seule production, et puis des tournées de récital. C'est un choix, bien sûr, de mesurer la carrière comme ça ?
Un choix de mesurer les forces, pas nécessairement la carrière, les forces, parce que entre nouvelles productions à Salzbourg, nouvelles productions, ça peut arriver aussi dans des autres théâtres, mais aussi deux nouvelles productions par an, et concerts, récitals, ça demande beaucoup. Et aussi apprendre, enfin, si on a de prises de rôle, il faut avoir le temps pour étudier. Honnêtement, vous savez, quand vous avez parlé de mentionner Pavarotti, moi j'étais au concert de trois ténors à Rome, à Caracalla, et c'était très impressionnant. Les grands artistes étaient quatre grands artistes parce que c'était les trois ténors, mais aussi Zubimet qui dirigeait. Et moi, j'ai trouvé que ce concert a aidé beaucoup pour retrouver enfin un public qui pas nécessairement écoute la musique classique ou l'opéra, mais je crois que ça, c'est une opération intéressante.
Mais ça, vous le ferez pas, vous, par exemple?
Non, moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'était pas du vrai crossover. Enfin, quand on pense au crossover, c'était un crossover sain. Et je trouve que le Vivaldi, le disque de Vivaldi, c'était aussi, c'est ma façon de faire un crossover. Parce que c'est quoi le crossover? C'est-à-dire d'arriver à porter les gens à traverser le pont vers toi, vers la musique, enfin, la musique que tu aimes et tu as quelque chose à dire. Et je pense que le projet Vivaldi, ou le projet, pas nécessairement seulement c'est ce que j'avais sur Vivaldi, ou sur Stéphane, ou sur la musique des Italiens en Russie, enfin, ça apportait un nouveau public, je crois, à la musique classique.
Dernière question.
Mais si Steve me demande de faire un disque, pourquoi pas, un projet, hein. Moi, je suis pas contre à ça. Oui, je l'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup les chanteurs de musique pop, mais ça doit avoir... Enfin, je dois avoir une raison artistique. C'est pas seulement pour remplir un stadium. Non, S'il y a un vrai projet artistique, pourquoi pas? Vous savez, j'ai entendu chanter Sting la musique de Purcell. Lui, il a fait un projet sur la musique de Purcell. J'ai trouvé magnifique. Vraiment. Ça fait son de chanter, d'interpréter la musique. Mais dis donc, chapeau, hein.
Bon, dernière question bête, Cecilia Bartoli, il paraît que vous détestez le coiffeur. Pourquoi vous ne voulez pas aller chez le coiffeur? Pourquoi vous n'aimez pas ça?
Ça va, non?
Mais c'est très bien.
Aujourd'hui,
mais
ça va, non?
Mais pourquoi vous détestez ça à ce point-là?
Non, parce que j'aime pas la laque. Vous savez, alors, ça irrite la voix, le nez et les cordes vocales. Alors, et c'est presque impossible d'aller chez un coiffeur qui n'utilise pas la laque, parce que... d'une raison à l'autre, il y a toujours des femmes qui ont besoin. C'est ça qu'on dit la laque, non?
Absolument, oui, oui.
Alors, tout ce spray là, oh mon Dieu, ça c'est l'horreur. Enfin, si je ne dois pas chanter, je peux quand même y aller chez le coiffeur. Mais surtout pas avant un concert. Ou alors surtout pas de la laque avant un concert.
Thank you. Dove sono, l'air de la comtesse, extrait des Noces de Figaro de Mozart, chanté par Cecilia Bartoli, l'orchestre de chambre de Vienne, dirigé par Georgi Fischer. Si vous voulez retrouver Cecilia Bartoli au disque, eh bien sachez que plein de nouveautés ou rééditions sont ces jours-ci dans les bacs. Son nouvel album Vivaldi, sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi, et puis aussi un gros coffret Rossini qui rassemble 15 CD, 6 DVD. Ce qu'elle a fait de meilleur, tout ce qu'elle a fait, et c'est du meilleur, autour du compositeur italien. Un grand merci à Flora Sternadel, Perrine Minguy, Yves Lehors et Frédéric Changenet. Vous retrouvez la programmation et pouvez réécouter jusqu'à plus soif cette émission sur francemusique.fr, rubrique Les Grands Entretiens. Très bonne journée à tous.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.